Chapitre 4. Le baiser du fou. Nombre d'histoires parlent de viffiers qui prennent l'apparence de leur animal de lien pour nuire à leurs voisins. Les plus sanglantes évoquent des humains qui, sous l'aspect de loups, massacrent des familles entières et leurs troupeaux. D'autres, moins sinistres, décrivent des soupirants qui se déguisent en oiseaux, en chats, voire en ours de foire, pour accéder à la chambre de leur belle. Tous ces contes sont de pures inventions, relayées par ceux qui s'efforcent d'attiser la haine contre le vif. Un viffier peut certes partager l'esprit de son animal, et par là même ses perceptions, mais il lui est impossible de prendre sa forme. S'il est vrai qu'un humain, au bout d'une longue association avec un animal, finit parfois par adopter certaines de ses particularités, dans la manière de se tenir, ou dans son régime alimentaire, cela ne fait pas pour autant un ours de celui qui mange, dort, fouille dans les déchets et sent comme un ours. Si l'on pouvait détruire cette légende qui prête aux gens du vif la capacité de se métamorphoser, on ferait un grand pas vers le rétablissement de la confiance entre vifiés et non-vifiés. Conte du lignage de Tom Blaireau. Le loup ne se trouvait plus où je l'avais quitté. Une angoisse sans nom me saisit, et il me fallut un moment pour me convaincre que je ne m'étais pas trompé de vallon. Mais le doute n'était pas permis. Je repérais les traces de sang qu'il avait laissées sur le tapis de feuilles mortes, et les éclaboussures dans la poussière, là où il avait bu dans mes mains. Il avait bien été là, et il n'y était plus. C'est une chose de repérer la trace de deux chevaux ferrés qui portent des cavaliers. Pister un loup sur un sol sec en est une autre. Il n'avait laissé aucun signe de son passage et je n'osais pas le contacter par le vif. Je pris le parti de suivre les empreintes des montures, dans l'espoir qu'il avait agi de même. Elles m'emmenèrent dans une combe, entre deux collines écrasées de soleil, jusqu'à un ruisseau où les cavaliers s'étaient arrêtés pour faire boire leurs bêtes. Et là, superposée à celle d'un sabot, je distinguais la trace d'une patte de loup. Ils pistaient bien les deux hommes. Trois collines plus loin, je le rattrapai. Il savait que j'arrivais, mais continua d'avancer sans m'attendre, et sa démarche me tira l'œil. Au lieu de trotter à une allure soutenue comme d'habitude, il allait au pas. Manoir n'appréciait guère son voisinage, mais elle ne m'opposa pas de résistance, et comme je m'approchais du loup, il fit halte à l'ombre d'un bosquet. « Je t'ai apporté de la viande, » lui dis-je, en mettant pied à terre. Je sentais qu'il avait conscience de moi. Mais il ne me transmit aucune pensée. J'en eus presque froid dans le dos. Je tirai les tranches de rôti de ma chemise et les lui donnai. Il les engloutit avidement, puis vint s'asseoir près de moi. Quand je sortis le pot d'onguent de ma besace, il poussa un soupir et s'étendit sur le flanc. Les lèvres des lacérations qui zébraient son ventre étaient livides et brûlantes, et quand j'y appliquai la pommade, sa souffrance se dressa entre nous, aiguë comme un rasoir. Je m'efforçai d'œuvrer avec douceur, mais aussi consciencieusement que possible, et il supporta stoïquement le traitement. Je restai ensuite près de lui, ma main sur sa fourrure, pendant qu'il reniflait l'onguent. « Miel et graisse d'ours, » lui dis-je. Il se mit à lécher les longues entailles et je le laissai faire. Ses coups de langue allaient enfoncer le produit dans ses blessures, sans lui causer de dommages. En outre, j'aurais été bien en peine de l'en empêcher. Sans que j'eusse besoin de rien lui expliquer, il sut que je devais retourner à Castelmyrte. Le plus sage serait que je continue à les suivre, même si je n'avance pas vite. Plus longtemps tu resteras retenu au manoir, plus la piste refroidira. Mieux vaut que tu me rejoignes là où je serai parvenu, plutôt qu'essayer de retrouver des traces à demi effacées. Tu as raison. Ton argument est imparable. Il n'était pas en état de chasser, ni de se défendre, mais il le savait aussi bien que moi, et il avait pris sa décision en toute conscience. Je tus donc mes inquiétudes. Je te rattraperai le plus vite possible. Cela aussi, il le savait, mais je n'avais pas pu m'empêcher de lui donner ma parole. Mon frère, méfie-toi de tes rêves cette nuit. J'essaierai de ne pas rêver avec eux, mais je crains qu'eux ne te recherchent. Une volute de peur monta en moi, mais, là encore, il n'y avait rien à dire. Futilement, je regrettais de n'avoir pas été instruit dans le vif dès l'enfance. Si j'avais mieux compris les enseignements du lignage, j'aurais peut-être su quel danger j'affrontais. Non, je ne crois pas ce que tu fais, ta façon de te lier avec le garçon. Ce n'est pas seulement avec l'art, c'est le mélange de tes magies. Tu ouvres la porte avec l'une et tu voyages avec l'autre, comme le jour où j'ai attaqué Justin après qu'il avait établi un contact d'art avec toi. Son art avait créé le pont, mais je me suis servi de mon lien avec toi pour le traverser. C'était intentionnellement qu'il partageait ses réflexions avec moi, car il avait perçu l'inquiétude qui grandissait en moi depuis quelque temps. Justin avait traité mon vif de magie de chien et prétendu qu'elle polluait mon usage de l'art. Vérité, lui, ne s'en était jamais plaint, mais je devais le reconnaître, il n'avait bénéficié comme moi que d'une formation tronquée, et il n'avait peut-être pas su détecter la souillure du vif dans mon emploi de l'art, à moins que, par charité, il ne se fût interdit de m'en faire le reproche. Pour l'instant, toutefois, c'était le loup qui me préoccupait. Ne les suis pas de trop près. Tâche d'éviter qu'ils se rendent compte de notre traque. Que redoutes-tu? Que j'attaque un marguet et deux hommes à cheval? N'aie crainte, ce combat te revient. Moi, je piste le gibier. Toi, tu te charges de l'acculer et de le tuer. Cette dernière pensée laissa dans mon esprit des images désagréables qui me hantèrent pendant mon retour à Castelmyrte. J'étais parti à la recherche d'un jeune prince qui avait fait une fugue ou peut-être était l'objet d'un enlèvement, et je me retrouvais confronté non seulement à un garçon qui n'avait aucune envie de revenir à Castelserre, mais aussi à ses comparses. Jusqu'où étais-je prêt à aller pour le ramener à la reine? Lui-même, quelle limite imposerait-il à sa volonté de n'en faire qu'à sa tête? Et ceux qui l'accompagnaient, auraient-ils des restrictions sur les mesures à prendre pour le garder? Sire Doré avait raison de nous obliger à rester dans nos rôles respectifs, je le savais. Je n'aspirais qu'à laisser tomber mon déguisement, rattraper le prince et le ramener de gré ou de force à Castelserre, mais je n'ignorais pas les conséquences d'une telle attitude. Si les Brésinga acquéraient la certitude que nous étions à sa recherche, ils ne manqueraient pas de l'avertir, ce qui l'inciterait à presser encore le pas et à se cacher mieux encore pour nous échapper. Au pire, ils chercheraient à s'interposer. Or, je ne tenais pas du tout à mourir prématurément, victime d'un accident, pendant que nous chasserions le prince de Voir. Telle qu'était la situation, je pouvais encore espérer me débrouiller pour récupérer discrètement le jeune garçon et le ramener à Castelserre. Il avait repris sa fuite, mais il n'avait aucun motif de soupçonner Sire Doré de le pourchasser. Si le fou parvenait à nous libérer de l'hospitalité de Dame Brésinga sans susciter de questions, nous pourrions nous lancer à sa poursuite sans nous faire remarquer et nous aurions alors plus de chances de le rattraper. Je rentrai à Castelmyrte, écrasé de chaleur, couvert de poussière et mourant de soif. Je confiai ma jument à un garçon d'écurie, ce qui me fit, comme d'habitude, un effet bizarre, et je trouvai Sire Doré en train de faire la sieste dans ses appartements. Les rideaux étaient tirés pour empêcher la chaleur et la lumière d'entrer, si bien qu'il régnait une pénombre crépusculaire dans sa chambre. Je me rendis sans bruit dans la mienne pour faire un brin de toilette, puis accrochai ma chemise à un montant du lit pour l'aérer et la faire sécher. En jetai une propre sur mon épaule et ressortis. On avait rempli de fruits la coupe qui trônait sur la table. Je pris une prune et allai la manger à la fenêtre, en écartant légèrement un rideau pour regarder le jardin. Je ressentais un mélange de fatigue et d'énervement. L'impression d'être pieds et poings liés, sans rien faire pour passer le temps. L'impuissance et l'inquiétude s'empoignaient en moi.
Avez-vous retrouvé ma chaîne, Blaireau?
C'était l'organe aristocratique du seigneur Doré qui avait interrompu ma songerie. Oui, messire, exactement là où vous pensiez l'avoir perdue. Je sortis le délicat bijou de ma poche et le lui apportai. Mollement étendu sur son lit, il le recueillit dans sa main avec une expression de soulagement, comme s'il eût été un véritable gentilhomme et qu'il eût réellement égaré son collier. Je baissai la voix. Œil de nuit suit la trace. Dès que nous pourrons prendre congé, nous irons directement le rejoindre.
Comment va-t-il?
Il est courbattu et il souffre, mais je pense qu'il s'en remettra.
Tant mieux.
Il s'assit dans son lit, puis se leva.
J'ai choisi nos tenues pour la soirée et j'ai déposé la vôtre dans votre chambre. Mais franchement, Blaireau, il faut que vous appreniez à traiter mes affaires avec plus de soin. »
J'essaierai, monseigneur, marmonnai-je. Et puis, je n'eus plus le courage de persévérer dans mon rôle. J'en avais soudain par-dessus la tête de jouer la comédie. « As-tu réfléchi à un moyen de nous esquiver sans tapage ?»«
Non. »
Il s'approcha de la table où une carafe de vin l'attendait. Il en remplit un verre, le vida d'un trait et se resservit.
« Mais j'en ai imaginé un spectaculaire pour lequel j'ai commencé à préparer le terrain cet après-midi. J'en ai quelques regrets, car je vais un peu écorner la réputation du seigneur Doré. Mais après tout, qu'est-ce qu'un gentilhomme sans un parfum de scandale attaché à son nom ? Je n'en serai sans doute que plus populaire à la cour. Chacun voudra connaître ma version des faits et se perdra en conjectures sur ce qui se sera vraiment passé. »
Il but une gorgée de vin.
« Si j'atteins mon but, je pense convaincre Dame Brisinga qu'elle fait erreur en nous soupçonnant de rechercher le prince. Jamais un émissaire de la reine ne se conduirait comme j'en ai l'intention. »
Il me fit un sourire lugubre. « Qu'as-tu fait ?»«
Rien pour l'instant. » Mais à mon avis, demain matin, on se mettra en quatre pour faciliter notre départ. »
Il porta de nouveau son verre à ses lèvres.
« Parfois, ce que je dois faire ne me plaît pas du tout, » dit-il, et je perçus une note plaintive dans sa voix.
Il finit son vin comme s'il voulait se donner du courage. Il refusa de m'en révéler davantage et s'apprêta soigneusement pour le dîner. Pour ma part, je dus affronter l'indignité de porter un pourpoint vert avec des choses jaunes.
« C'est peut-être un brin voyant, » concéda-t-il devant mon regard enflammé.
Son sourire était trop réjoui pour que j'y lise la moindre excuse, mais je fus incapable de déterminer s'il réagissait à l'alcool qu'il avait ingurgité ou s'il traversait un de ces accès de folie malicieuse qui le prenait de temps en temps.
« Quittez cette terre sinistre, Blaireau !» reprit-il en ajustant les manches d'une veste d'un vert sobre. « Mes valets se doivent d'avoir une attitude amène. En outre, ces couleurs mettent en valeur votre teint, vos cheveux et vos yeux sombres. Bref, toute votre personne. Vous m'évoquez un perroquet exotique. Il se peut que vous n'aimiez pas vous mettre ainsi en avant, mais ces dames, elles, l'apprécieront. »
Je lui obéis, mais je dus pour cela faire appel à tous mes talents de comédien. Deux pas derrière lui, je l'accompagnais jusqu'à la salle où la noblesse s'était réunie en attendant le dîner. L'assemblée était plus considérable que la veille, car Dame Brisinga avait étendu son hospitalité à tous les participants de la partie de chasse du matin. Pourtant, vu le peu d'attention que leur porta Sire Doré, ils auraient aussi bien pu être invisibles. Sidel se trouvait assise à une table basse en compagnie de civils, avec un assortiment de plumes devant eux, lequel semblait au cœur de leur conversation. La jeune fille surveilla manifestement la porte, car, à l'instant où Sire Doré apparut, elle fut comme transfigurée. Son visage se mit à rayonner comme une lanterne dans l'obscurité. Sivil, lui aussi, subit une transformation, mais beaucoup moins plaisante à regarder. La bienséance lui interdisait de critiquer un invité sous le toit de sa mère, mais ses traits se figèrent, et il prit une expression glaciale. L'effroi me noua l'estomac. Non, je ne voulais pas assister à ça. Mais le seigneur Doré, avec un sourire aimable, se dirigea droit sur le couple, et ses salutations aux personnes qu'il croisa sur son chemin furent d'une brièveté qui confinait à l'insulte. Sans chercher à faire preuve de la moindre subtilité, il s'installa entre les deux jeunes gens, obligeant Civil à se décaler pour lui faire de la place, et dès lors, il n'accorda pratiquement plus aucun intérêt à quiconque, sauf à Sidel, sur laquelle il concentra tout son charme. Il se pencha avec elle sur les plumes, et chacun de ses gestes était pure séduction. Ses longs doigts caressèrent les pennes chatoyantes posées sur la nappe, puis il en choisit une, en passa l'extrémité soyeuse sur sa joue, puis la fit doucement courir le long du bras de sa compagne. Elle s'écarta, avec un petit rire effarouché. Il sourit. Elle rougit. Il reposa la plume qu'il menaça du doigt, comme s'il reprochait à l'innocent objet de se montrer trop entreprenant. Puis, il en prit une autre, et, avec audace, il la plaça contre le tissu de la robe de Sidel, en faisant à mi-voix une remarque sur le contraste des couleurs. Enfin, il saisit une poignée de plumes qu'il arrangea en une sorte de bouquet. Du bout de l'index, il obligea la jeune fille à tourner son visage vers lui, et, comme par un tour de passe-passe, il accrocha les plumes à sa coiffure, la pointe vers le bas, de telle façon qu'elle suivait la ligne de sa joue. Civil quitta brusquement sa place et s'éloigna à pas furieux. Sa mère glissa quelques mots à une de ses voisines, qui se hâta de l'intercepter avant qu'il pût quitter la pièce. Il y eut entre eux un échange de propos à voix basse. Civil s'exprimait d'un ton qui n'avait rien de posé, mais je ne pus entendre ce qu'il disait car, à cet instant, la voix de Sire Doré s'éleva par-dessus les autres conversations.
« Que n'ai-je un miroir pour que vous vous y admiriez? Mais il faudra vous satisfaire de voir combien cet ornement vous sied en vous mirant dans mes yeux. »
Plus tôt dans la journée, j'avais été épouvanté par la hardiesse avec laquelle la jeune fille poursuivait Sire Doré de ses assiduités et par sa promptitude à rejeter son jeune soupirant pour lui préférer ce gentilhomme inconnu. Mais à présent, j'avais presque pitié d'elle. On parle d'oiseaux qui se laisseraient hypnotiser par certains serpents, bien que je n'aie jamais été témoin d'un tel phénomène, mais ce à quoi j'assistais m'évoquait davantage une fleur se tendant vers le soleil. Sidèle se nourrissait de l'attention de Sire Doré et s'épanouissait à sa chaleur, et, en l'espace de quelques instants, son admiration d'adolescente pour son âge, sa fortune et ses belles manières avait laissé la place à l'intérêt et à l'attirance d'une femme pour un homme. Je savais avec une certitude qui me donnait la chair de poule qu'elle ne résisterait pas s'il décidait de l'emmener dans son lit. S'il frappait à sa porte cette nuit, elle le laisserait entrer sans hésitation.
« Il va trop loin, » me dit Laurier en passant près de moi, dans un murmure teinté d'horreur.
« C'est sa spécialité, » répondis-je aussi bas. Je fis jouer mes épaules trop serrées dans mon pourpoint à la couleur peu discrète. Mon rôle de garde du corps de Sire Doré risquait fort de devenir réalité, à en juger par le regard assassin que Civil braquait sur mon maître. Quand Dame Brézinga annonçait qu'il était l'heure de dîner, le jeune garçon commit une erreur stupide. Il hésita. Sans même lui laisser le temps d'exprimer sa fureur, en refusant grossièrement d'escorter Sidèle à table, son rival offrit son bras à la jeune fille qui l'accepta. Civil se retrouva obligé, par les règles de la bienséance, d'accompagner sa mère, et tous deux, l'air maussade, pénétrèrent dans sa salle à manger, à la suite de leur hôte estimé et de sa proie. Pendant le repas, je m'efforçais de contenir mes émotions et de rester simple spectateur. La tactique de Sire Doré était très révélatrice du monde de l'aristocratie. Les parents de Sidèle se trouvaient déchirés entre la courtoisie qu'ils devaient à Dame Brézinga et à son fils, et la perspective séduisante de voir leur fille capter l'attention du gentilhomme extrêmement aisé qu'était le seigneur Doré, prise beaucoup plus intéressante que civile. Cependant, ils ne méconnaissaient pas le danger que courait leur enfant. Attirer l'œil d'un gentilhomme, ce n'est pas avoir sa promesse de mariage. Peut-être voulait-il seulement s'amuser avec Sidèle, au risque de ruiner ultérieurement pour elle tout espoir d'une union avantageuse. Elle s'aventurait sur un chemin périlleux, et, à la façon dont sa mère, dame humble, émiettait nerveusement son pain, il était clair qu'elle doutait des capacités de sa fille à éviter le faux pas. Avoine et Laurier s'évertuaient à susciter une conversation sur la partie de chasse, et les autres invités jouaient le jeu tant bien que mal, mais Sire Doré et Sidèle étaient trop occupés à échanger des mots doux pour leur prêter la moindre attention, pas plus qu'à Civil, assis à côté de la jeune fille. Avoine dissertait sur l'usage de la rue dans le dressage des marguets, car chacun sait que ces animaux se détournent d'un objet imprégné de l'essence de cette plante, à quoi Sire Laurier répondait qu'on employait parfois l'oignon dans le même but. Sire Doré lui offrait à Sidèle de petites bouchées des différents plats, puis la regardait manger avec une fascination ravie. Il buvait beaucoup, engloutissant les verres à la chaîne, et selon toute apparence, il ne faisait pas semblant. Je sentais l'angoisse monter en moi. Ivre, le fou avait toujours fait montre d'une humeur capricieuse et imprévisible. Le seigneur Doré ferait-il preuve de plus de mesure? La colère de Civil avait dû franchir un nouveau cran et flamboyer brusquement, car j'entendis l'écho d'une réponse par le vif. Je ne pus capter la pensée, mais je saisis l'émotion qui l'accompagnait. Un animal n'attendait que l'ordre du jeune garçon pour réduire Sire Doré en charpie. Le marguet de Civil était sûrement sa bête de lien. et durant ce bref instant où, enflammé de fureur, il oublia de se protéger, je perçus la soif de sang qu'il partageait. Le contact disparut aussitôt, parfaitement dissimulé, mais il n'y avait pas à s'y tromper. Le garçon avait le vif. Et Dame Brézinga? Je tournai les yeux dans sa direction et l'observai sans en avoir l'air. Nulle trace de vif n'émanait d'elle, mais je sentis sa désapprobation devant l'erreur de son fils. Quelle erreur! Celle d'avoir trahi son appartenance au lignage, à qui était capable de l'apercevoir, ou celle de manifester trop ostensiblement son déplaisir. De fait, il n'était pas séant pour quelqu'un de son rang d'étaler ainsi ses émotions. Comme la veille, je passai le repas debout derrière la chaise du seigneur doré. Je n'appris pas grand-chose des paroles qui s'échangèrent, mais beaucoup des regards. L'attitude scandaleuse de mon maître fascinait et horrifiait à la fois les autres invités, et les murmures allaient bon train autour de la table, ainsi que les coups d'œil choqués. À un moment, Sire Humble passa de longs instants à respirer profondément, les narines blanches et pincées, tandis que son épouse lui parlait à mi-voix, mais avec véhémence. Elle semblait prête à courir le risque d'échanger les bonnes grâces des Brézinga contre le bénéfice possible d'un meilleur parti. Pour ma part, j'analysais expression et parole dans l'espoir de découvrir qui avait le vif et qui ne l'avait pas. Mon examen était purement subjectif, mais avant même la fin du dîner, j'étais convaincu que Civil et Dame Brézinga appartenaient au lignage, au contraire de leur maître veneur. Quant aux autres invités, deux d'entre eux me paraissaient de bons candidats. Une certaine Dame Jerit avait du félin dans ses manières, et c'était peut-être sans s'en rendre compte qu'elle reniflait chaque plat avant d'y goûter. Son époux, gaillard solide et cordial, tournait toujours la tête de côté quand il s'attaquait à un pilon de volaille, comme s'il possédait des dents tranchantes au fond de la mâchoire pour cisailler la chair. C'était de petits riens, mais qui en disaient long. De même qu'il s'était réfugié à Castelmyrte en quittant Castelserre, le prince, une fois délogé du manoir Brézinga, risquait de chercher un fief où l'on accueillait favorablement les vifiers. Les Djérites habitaient au sud et la trace de devoir menait vers le nord, mais rien ne l'empêchait d'effectuer un détour pour revenir en arrière. Je notais aussi un autre détail. Le regard de Dame Brézinga se portait souvent sur moi, et je ne pense pas que ce fût par admiration pour les couleurs de ma livrée. Elle avait l'expression de quelqu'un qui tente de retrouver un souvenir oublié. J'étais presque certain de ne l'avoir jamais croisée lors de mon existence précédente sous l'identité de Fitz-Chevalerie, mais « presque certain » signifie qu'il reste un petit doute qui s'agite au fond de moi. Pendant un moment, je gardais la tête légèrement courbée et les yeux de côté, et c'est seulement en observant les autres invités que je compris que mon attitude était celle d'un loup. Alors, quand la maîtresse de maison tourna de nouveau ses yeux vers moi, je la regardais bien en face. Je n'eus pas l'effronterie de lui sourire, mais j'agrandis les yeux en feignant de m'intéresser à elle. Elle ne chercha pas à cacher l'indignation qu'elle éprouvait devant la hardiesse du valet de Sire Doré, et, à la manière des chats, elle conserva les yeux braqués sur moi, mais fit comme si je n'existais plus. Grâce à ce seul regard, ma conviction fut faite. Elle avait le vif. Était-ce elle, la femme qui avait séduit mon prince? Certes, elle était attirante avec ses lèvres pleines qui indiquaient un caractère sensuel, et de voir ne serait pas le premier jeune homme à succomber au charme d'une femme plus âgée et plus expérimentée. Était-ce le but qu'elle poursuivait en lui faisant présent de la marguette? Cherchait-elle à s'emparer de son cœur juvénile, si bien que, quelle que soit celle à laquelle on l'unirait, ses sentiments le ramèneraient toujours à elle? Cela expliquerait qu'il se fût rendu à Myrteville en s'enfuyant de Castelserre. Mais, à bien y réfléchir, cela ne rendait pas compte de sa passion insatisfaite. Non, si elle avait voulu séduire le prince, elle se serait hâtée de refermer sa nasse autour de lui, et tout aurait déjà été dit. L'affaire était plus complexe et plus étrange, comme l'avait remarqué le loup. D'un petit geste de la main, le seigneur doré me donna congé à la fin du repas, et j'obéis, mais à contre-cœur. J'aurais voulu continuer à observer les réactions que son attitude révoltante suscitait. Les convives allaient passer à d'autres divertissements, musique, jeux de hasard et conversation. Je me rendis aux cuisines où, encore une fois, on m'offrit d'abondants reliefs du dîner.
On avait servi un porcelet à table, et il restait sur le plat, autour de la carcasse, quantité de morceaux tendres à la peau croustillante. La viande avait été présentée avec une sauce aux pommes et aux baies aigres, et le tout, accompagné de pain, de fromage à pâte blanche et moelleuse, et de plusieurs chopes de bière, me fournit de quoi me restaurer copieusement. Cependant, j'aurais sans doute mieux savouré ce festin si le valet de cire dorée n'avait pas été pris à partie à propos de la conduite de son maître. La mine sévère, Lebven m'apprit que Civil et Sidel étaient fiancés pratiquement depuis leur naissance, et si leurs accordailles n'avaient rien d'officiel, chacun savait du moins, dans les deux maisons, que les jeunes gens étaient promis l'un à l'autre. La famille de Dame Brézinga et celle du seigneur Omble entretenaient depuis toujours les meilleurs rapports, et les deux fiefs étaient mitoyens. Pourquoi la fille de Sire Omble ne profiterait-elle pas de la rapide ascension de Dame Brézinga dans le monde? Les vieux amis doivent s'entraider. Que faisait donc mon maître à jouer ainsi les empêcheurs de tourner en rond? Ses intentions étaient-elles seulement honorables? Comptait-il voler la promise de Civil et lui faire mener grand train à la cour, dans une aisance bien au-delà de son rang? Était-ce un coureur de jupons, et ne faisait-il que s'amuser avec les sentiments de Sidel? Que valait-il à l'épée? Civil avait un caractère vif, c'était bien connu, et, loi de l'hospitalité ou non, il risquait de provoquer mon maître en duel pour récupérer la jeune fille. À toutes ces questions, j'opposais mon ignorance. Je venais d'entrer au service de Sire Doré et à la cour de Castelserre, et je ne connaissais guère les us et le tempérament de mon maître. J'éprouvais donc la même curiosité que mes interlocuteurs quant à la suite des événements. Malheureusement, Sire Doré avait suscité un tel émoi que je ne parvins pas à dévier la conversation sur le prince, le lignage, ni aucun sujet utile. Je demeurai aux cuisines le temps de chaparder un gros morceau de viande, puis, prenant prétexte de mes devoirs, je m'éclipsai, agacé de n'avoir rien appris et inquiet pour l'avenir du seigneur Doré. Dans ma chambre, je me déshabillai et revêtis ma livrée bleue, plus sobre et plus propre. Le pourpoint vert avait souffert du contact avec la viande. Puis, je m'assis en attendant le retour de mon maître. L'anxiété grondait en moi. S'il poussait sa comédie trop loin, il risquait fort de se retrouver face à l'épée de Civil, et je doutais que le seigneur Doré fût plus doué à l'escrime que ne l'était le fou. Le scandale serait naturellement énorme si le sang coulait, mais un jeune homme dans la position de Civil a tendance à ne pas se préoccuper de tels détails. Les abysses de la nuit étaient passées, et le jour s'acheminait vers les hauts fonds de l'aube quand on frappa à la porte. Une servante m'avertit, le visage fermé, que mon maître avait besoin de mon aide. L'estomac noué, je la suivis et découvris Sire Doré ivre-mort dans un petit salon. Il était affalé sur un banc comme un vêtement qu'on aurait jeté là, négligemment. Si son avachissement avait eu des témoins, il ne s'était pas attardé. Même la servante hocha la tête d'un air révolté en le laissant à mes bons soins. Je m'attendais à demi, lorsqu'elle sortit, que le fou se redresse brusquement et m'adresse un clin d'œil pour me faire comprendre qu'il jouait la comédie, mais il ne réagit pas. Je le pris sous les aisselles et le relevai, mais cela ne suffit pas à le réveiller. Je ne voyais que deux solutions, le traîner ou le porter. Et je choisis finalement un expédient qui manquait de dignité, mais pas d'efficacité. Je le jetai sur mon épaule et le transportai jusqu'à ses appartements comme un sac de grains. Sans cérémonie, je le laissai choir sur son lit et verrouillai la porte. Après quoi je lui retirai ses bottes, le saisis par le pourpoint et le secouai jusqu'à ce que le vêtement me reste dans les mains. Comme il retombait sur le dos en travers du matelas, il déclara
« Eh bien, j'ai réussi, j'en suis certain. Demain, je présenterai mes excuses les plus abjectes à Dame Brézinga. Nous partirons aussitôt, et tout le monde en sera soulagé. Nul ne nous suivra, et nul ne se doutera que nous recherchons le prince. »
Sa voix avait défailli sur la fin de son discours. Il n'avait toujours pas ouvert les yeux. Avec effort, il ajouta
« Je crois que je vais vomir. »
J'apportai une cuvette et la posai près de lui. Il la prit au creux de son bras comme s'il s'agissait d'une poupée. « Qu'as-tu fait exactement ? » demandai-je tendu.
« Oh, Eda, si la chambre pouvait cesser de tourner !»
Il ferma les yeux, les sourcils froncés, et me répondit
« Je l'ai embrassé. Là, j'ai enfoncé le clou.
Tu as embrassé Sidel, la fiancée de Civil?
Non,
fit-il d'un ton gémissant, et le soulagement m'inonda. Malheureusement, il fut de courte durée.
J'ai embrassé Civil.
Quoi?
J'étais allé satisfaire un besoin naturel. À mon retour, il m'attendait devant la porte du petit salon où les autres jouaient. Il m'a attrapé par un bras et il m'a quasiment entraîné dans une pièce voisine où il s'est planté devant moi.
Quelles étaient mes intentions à l'égard de Sidel? N'avais-je donc pas compris qu'il existait un accord entre elle et lui?
Et qu'as-tu répondu?
J'ai répondu.
Il s'interrompit soudain et ses yeux s'agrandirent. Il se pencha sur la cuvette, mais au bout d'un moment, il émit un simple rot et se rallongea. Il poussa un gémissement et reprit.
J'ai répondu que je n'étais pas en désaccord avec leur accord et que j'espérais pouvoir m'accorder avec eux. Je lui ai pris la main et je lui ai affirmé que je ne voyais aucune difficulté, que Sidel était une charmante jeune fille, aussi charmante que lui, et que je souhaitais que nous devenions tous trois des amis très intimes.
Et c'est là que tu l'as embrassé? Je n'en croyais pas mes oreilles. Sire Doré ferma les yeux et plissa les paupières.
Il m'a paru un peu naïf et j'ai voulu m'assurer qu'il avait parfaitement compris ce que je sous-entendais.
Par elle et Eda réunis, m'exclamai-je. Je me levai et le fou gémit en sentant le matelas onduler. Je m'approchai de la fenêtre et regardai au dehors. « Mais comment as-tu osé ? » fis-je, hébété. Il soupira et répondit d'une voix où je sentis une ironie forcée.
« Je t'en prie, bien-aimé, ne sois pas jaloux. Ce n'était qu'un baiser des plus brefs et des plus chastes. »«
Fou ! » m'écriai-je d'un ton de reproche. Comment pouvait-il plaisanter sur un sujet pareil?
Je ne l'ai même pas embrassé sur la bouche. J'ai tendrement pressé mes lèvres dans le creux de sa main et je n'ai donné qu'un petit coup de langue sur sa paume. Il eut un sourire défaillant. Il l'a retiré comme si je l'avais marqué au fer rouge.
Un hoquet lui échappa soudain et ses traits se tendirent.
Vous avez la permission « de regagner votre chambre, blaireau. Je n'ai plus besoin de vous pour cette nuit. »«
Vous en êtes certain ?» Il acquiesça d'un brusque hochement de tête.
« Va-t'en, » dit-il avec franchise. « Si je dois vomir, je ne veux pas que tu vois ça. »
Je comprenais qu'il tienne à préserver le peu de dignité qu'il lui restait. Je rentrai dans ma chambre, m'y enfermai, puis m'occupai à emballer mes affaires. Peu après, j'entendis des bruits pitoyables de l'autre côté de la porte, mais je ne bougeai pas. Dans certains cas, la solitude est préférable à la compagnie. Je dormis mal. Je mourais d'envie de contacter le loup, mais je n'osais pas me laisser aller à ce réconfort. Les manœuvres du fou étaient peut-être nécessaires, mais je m'en sentais sali. Et l'existence propre et sans faux semblant d'un loup me manquait. À l'aube, je m'éveillai de mon assoupissement en percevant les pas du fou qui allait et venait dans sa chambre. Quand je sortis, je le trouvai assis à la petite table, la mine décomposée, et la tenue impeccable qu'il venait de revêtir ne faisait que souligner son air hagard. Même ses cheveux paraissaient collés de transpiration et mal peignés. Devant lui, était posé un coffret et un miroir. Intrigué, je le vis plonger le doigt dans un pot, puis le passer sous un de ses yeux, dont le cerne s'assombrit et prit l'allure d'une poche. Il soupira.
« Ce que j'ai fait hier soir me répugne. »
Je n'avais nul besoin d'explication, et je m'efforçais d'apaiser sa conscience. « Qui sait si tu n'as pas rendu service à ces deux jeunes gens ? Peut-être vaut-il mieux qu'ils aient découvert, avant leur mariage, que le cœur de Sidel n'est pas aussi constant que le croyait Civil. Il secoua la tête, refusant le réconfort que je lui offrais.
Si je ne l'avais pas entraîné,
elle ne m'aurait pas suivi dans cette danse. Ses premières avances n'étaient que des coquetteries d'enfant. Je pense qu'il est aussi naturel pour une fille de chercher à séduire que pour un garçon de faire étalage de ses muscles et de son intrépidité. Les gamines de son âge sont pareilles à des chatons qui bondissent sur des brindilles pour s'exercer à la chasse. Les uns comme les autres ignorent encore le sens de leurs actes. Il poussa un soupir, puis se pencha de nouveau sur ses peaux de couleur. Je l'observai en silence. Non content d'accentuer son aspect malade, il ajouta une dizaine d'années à son âge en accusant les rides de son visage. « Crois-tu que ce soit nécessaire ?» lui demandai-je quand il referma sèchement le coffret et me le tendit. Je rangeai la boîte dans son coffre, qui, comme je le remarquais, était déjà rempli, prêt pour le départ.
« Oui.
Je tiens à ce que l'envoûtement sous lequel j'ai placé Sidèle soit totalement détruit avant que je m'en aille. Il faut qu'elle voie un homme nettement plus vieux qu'elle, aux mœurs dissolues. Alors, elle se demandera ce qui lui est passé par la tête et elle se hâtera de revenir à Civil. J'espère qu'il l'acceptera. Il ne s'agit pas qu'elle passe sa vie à soupirer après moi. Il soupira d'un air mélodramatique, mais c'était par autodérision, je le savais. Ce matin, des fractures zébraient la façade du seigneur doré par lesquelles transparaissait le fou. Un envoûtement ? Fis-je d'un ton sceptique.
Naturellement, aucune personne ne me résiste si je décide de la charmer. Enfin, aucune sauf toi.
Il leva les yeux au ciel d'un air douloureux.
Mais je n'ai pas le temps de m'apitoyer là-dessus. Tu vas annoncer que je désire un moment en privé avec Dame Brisinga. Ensuite, rends-toi chez Laurier pour l'avertir que nous allons bientôt partir.
Quand je revins, Sire Doré était déjà en route pour son rendez-vous avec la dame de Castelmyrte. L'entretien fut bref, et à son retour, mon maître m'ordonna de descendre aussitôt nos bagages. Il ne prit pas le temps de se restaurer, mais j'avais eu la précaution d'empocher tous les fruits de la coupe de ses appartements. Nous survivrions, et, de toute façon, il était sans doute plus sage que le fou se mette un peu à la diète. On amena nos montures, et Dame Brisinga vint nous faire des adieux polaires. Même les domestiques dédaignèrent de remarquer notre départ. Sire Doré présenta de nouveau ses excuses à notre hôtesse en attribuant sa conduite à l'excellente qualité de ses vins, mais si la flatterie avait pour but de la dégeler, ce fut un échec. Le seigneur Doré fit avancer sa jument à une allure qui évitait les cahots et nous sortîmes lentement de la cour. Arrivés au pied des collines, nous tournâmes en direction du bac, et c'est seulement quand la haie d'arbres qui bordait la route nous cacha du manoir que le fou fit halte et me demanda
« De quel côté ?»
Jusque-là, Laurier avait gardé une expression mortifiée, et j'avais déduit de son silence qu'en se couvrant d'opprobre, Sire Doré l'avait éclaboussé au passage. Mais son visage changea, et elle prit un air effaré quand je répondis « Par ici !» et fit quitter la route à manoir pour pénétrer dans le sous-bois moucheté de soleil.
« Ne nous attendez pas !» me dit Sire Doré d'un ton brusque. « Faites le plus vite possible pour combler l'écart. Nous nous débrouillerons pour vous rattraper, même si ma pauvre tête nous retarde un peu. Ce qui compte, c'est de ne pas perdre la piste du garçon. Je suis persuadé que Laurier saura suivre la vôtre. Allons, hâtez-vous !»
Je m'empressai d'obéir. J'avais saisi le but de son ordre. Me donner le temps de rattraper Œil de Nuit et de conférer seul à seul avec lui. Avec un bref hochement de tête, je talonnai ma noire qui s'élança sans se faire prier, et je laissai mon cœur nous conduire. Sans prendre la peine de retourner là où j'avais vu le loup la dernière fois, je mis cap au nord-est, où je savais le trouver à présent. Je tendis un fil ténu de conscience pour l'avertir de mon arrivée, et je sentis l'infime saccade de sa réponse. J'encourageai ma noire à galoper plus vite. Œil de Nuit avait réussi à couvrir une distance étonnante. Je ne me souciais pas que Laurier pût aisément ou non suivre ma trace. Mon seul objectif était de rejoindre mon loup, de m'assurer qu'il se portait bien, puis de me lancer à la poursuite du prince. Son état m'inspirait une inquiétude grandissante. L'été se vautrait encore sur la terre et il faisait une chaleur torride, malgré l'ombre légère des arbres qui tamisait l'ardent éclat du soleil. L'air sec me semblait chargé d'une poussière qui me desséchait la bouche et s'agglutinait sur mes cils. Sans chercher de piste ni de chemin, Je lançais ma noire à l'assaut des collines boisées et franchissais en ligne droite les vallons qui les entrecoupaient. Certaines combes, d'après leur végétation luxuriante, devaient servir de lit à des ruisseaux saisonniers, mais pour le présent, leurs eaux devaient filtrer à travers la terre, sous la surface du sol. Par deux fois, nous rencontrâmes des rues à l'air libre, et j'y fis halte pour boire et laisser ma noire s'abreuver, après quoi nous reprîmes notre course. En début d'après-midi, j'acquis la conviction indéfinissable qu'œil de nuit se trouvait à proximité. Avant de le voir ou de capter son odeur, j'eus le sentiment étrange, mais grandissant d'avoir déjà vu le terrain que nous foulions, de reconnaître les arbres vers lesquels nous avancions. Je tirai les rênes et scrutai lentement les collines qui nous entouraient. À cet instant, le loup sortit d'un bosquet d'aulnes à peine à un jet de pierre de nous. Ma noire tressaillit et focalisa son attention sur lui. Je posai la main sur son encolure. « Du calme, il n'y a rien à craindre. Du calme. » Œil de nuit ajouta son grain de sel. « Je suis trop fatigué et je n'ai pas assez faim pour t'attaquer. » Je t'ai apporté de la viande. « Je sais, je la sens. » Il s'en empara presque sans me laisser le temps de la déballer. J'aurais voulu jeter un coup d'œil à ses blessures, mais je me gardais bien de le déranger pendant qu'il mangeait. Et, quand il eut terminé son repas, il s'ébroua. « Allons-y. Laisse-moi examiner tes... Non. Ce soir, peut-être. Mais tant qu'il fait jour, ils avancent, et il faut les imiter. Ils ont déjà une bonne avance sur nous, et le sol sec retient mal leurs traces. Allons-y. » Il avait raison. La terre aride prenait difficilement les empreintes et les odeurs, et avant la fin de l'après-midi, nous fîmes fausse route par deux fois avant de retomber sur la piste en décrivant un vaste arc de cercle. Les ombres s'allongeaient quand Cire Dorée et Laurier nous rattrapèrent. « Votre chien nous a retrouvés, à ce que je vois, » fit la jeune femme, avec un sourire forcé. Je ne sus quoi répondre. Cire Dorée m'a expliqué que vous étiez à la poursuite du prince et qu'une servante vous avait appris qu'il s'était enfui vers le nord. Elle avait pris un ton interrogateur et sa bouche avait un pli sévère. Espérait-elle surprendre Cire Dorée en flagrant délit de mensonge ou bien me soupçonnait-elle d'avoir séduit quelque malheureuse domestique pour obtenir un renseignement? Elle ignorait qu'il s'agissait du prince. Elle l'a simplement décrit comme un jeune garçon accompagné d'un marguet. Je me creusais la cervelle pour détourner de nouvelles questions. « La trace est difficile à suivre. Si vous pouviez m'aider, je vous en serais reconnaissant. » Ma ruse opéra, et Laurier se révéla une pisteuse compétente. Alors que le jour déclinait, elle repéra de petits signes qui auraient pu m'échapper, et nous pûmes ainsi poursuivre notre traque bien après l'heure où j'aurais jugé la lumière suffisante. Nous parvînmes au bord d'un ruisseau où ceux que nous pourchassions avaient fait halte. On distinguait clairement, dans la terre humide, les empreintes de deux hommes, de deux chevaux et d'un marguet. Nous décidâmes de bivouaquer là pour la nuit. Mieux vaut nous interrompre, tant que nous sommes sûrs d'être sur la bonne piste, plutôt que continuer au risque de nous égarer et d'effacer leurs traces avec les nôtres. Nous repartirons au petit matin, décréta Laurier. Nous établîmes un camp rudimentaire, un petit feu et nos couvertures tout autour. Nous n'avions guère de vivres, mais l'eau ne manquait pas. Les fruits que j'avais pris au manoir, bien que tièdes et talés, furent bien accueillis, et Laurier emportait toujours, par habitude, quelques lanières de viande séchée et du pain de voyage. Cependant, elle n'en avait que très peu, et elle s'attira sans le savoir mes bonnes grâces en déclarant « Nous avons moins besoin de viande que le chien. Nous avons des fruits et du pain. » Quelqu'un d'autre aurait pu se désintéresser de la faim du loup et mettre les lanières de côté pour le lendemain. Œil de nuit, pour sa part, accepta la nourriture de la main de la jeune femme. Et plus tard, quand j'insistais pour examiner ses plaies, il n'émit pas le moindre grondement quand elle se joignit à moi. Elle eut tout de même le bon sens de ne pas chercher à le toucher. Comme je m'en doutais, la plus grande partie de l'onguent avait disparu sous ses coups de langue. Cependant, une croûte s'était formée sur ses blessures et la chair environnante ne paraissait pas trop enflammée. Je jugeais donc inutile d'y repasser de la pommade. Comme je rangeais le pot sans l'avoir ouvert, Laurier hocha la tête d'un air approbateur. « Mieux vaut des plaies sèches et bien refermées que trop graissées avec une croûte amolie. » Cire Dorée s'était déjà allongée sur sa couverture et je supposais que sa tête et son estomac le tourmentaient encore. Il n'avait guère parlé pendant que nous montions le camp, puis que nous partagions notre frugal repas. Dans l'obscurité qui allait s'épaississant, je n'arrivais pas à voir s'il avait fermé les yeux ou bien s'il contemplait le firmament. « Il a bien mérité de se reposer, » dis-je en le désignant d'un geste. « Couchez tôt ce soir, levez tôt demain matin, nous arriverons peut-être à les rattraper. » Laurier dut croire Sire Doré endormi, car c'est à voix basse qu'elle déclara. « Il faudra de la chance, et nous devrons cravacher dur. Notre gibier sait où il va, et il avance sans hésitation, tandis que nous devons procéder lentement et avec soin si nous ne voulons pas le perdre. » Elle pencha la tête et me dévisagea par-dessus le feu. « Comment avez-vous su à quel moment quitter la route pour retrouver sa piste ?» Je réfléchis à toute allure et choisis un mensonge au hasard. « Simple chance, » fis-je à mi-voix. J'avais le pressentiment que les ravisseurs prendraient cette direction, et quand nous sommes tombés sur leurs traces, il ne nous restait plus qu'à les suivre. Et votre chien partageait ce pressentiment. C'est pour ça qu'il nous a devancés. L'esprit vide, je m'entendis répondre sans le vouloir. « Peut-être que j'ai le vif. »« Mais bien sûr !» s'exclama-t-elle d'un ton ironique. « C'est pourquoi la reine vous a confié pour mission de retrouver son fils, parce que vous faites partie de ceux qu'elle redoute le plus. Non, vous n'avez pas le vif, Tom. J'ai connu des vifiers autrefois. J'ai supporté leur mépris de ceux qui ne possèdent pas leur magie. Là où j'ai passé mon enfance, il y en avait beaucoup, et à cette époque, dans ma région, ils ne se donnaient guère de mal pour se dissimuler. Vous n'avez pas plus le vif que moi, mais je dois admettre que vous êtes un des meilleurs pisteurs avec lesquels j'ai jamais voyagé. Je ne relevais pas le compliment. Parlez-moi un peu de ces vifiers que vous avez connus, dis-je en aplatissant un pli de ma couverture avant de m'étendre. Je fermai les yeux presque complètement, comme si la question ne m'intéressait que médiocrement. La lune, à une rainure d'être pleine, nous regardait du haut du ciel. À travers les arbres. À la lisière du cercle de lumière du feu, Œil de Nuit se léchait avec soin. Laurier passa un petit moment à ôter les cailloux de sous sa couverture, puis elle la lissa au sol et s'y allongea. Elle resta sans rien dire quelque temps et je crus qu'elle n'allait pas me répondre. « Bah, il n'était pas si terrible, » fit-elle enfin. « Il ne faisait pas ce qu'on raconte sur eux. Il ne se transformait pas en ours, en cerf ni en phoque à la pleine lune. » Il ne mangeait pas de viande crue et il ne volait pas les enfants. Mais tout de même, on ne les aimait pas. Pourquoi ? Ma foi, elle hésita. Ce n'était pas juste, dit-elle avec un soupir. On ne pouvait jamais être sûr qu'on était seul, car on ne savait pas si le voisin n'était pas en train d'espionner par les yeux et les oreilles d'un oiseau ou d'un renard en maraude. Et puis, ils profitaient largement des avantages du vif car leurs compagnons animaux leur signalaient toujours où la chasse était la meilleure, où les baies les plus mûres. Ils ne cachaient donc pas du tout leur vif. Je n'ai jamais entendu parler d'un village pareil. Le problème n'était pas tellement qu'ils étalaient leur magie, c'était plutôt qu'ils m'excluaient parce que je ne la possédais pas. Les enfants ne font pas dans la subtilité. Je fus frappé par la rancœur que je sentis dans ces paroles. Et je me rappelais soudain le dédain que m'avaient manifesté les autres membres du clan de Galen lorsqu'il était apparu que je n'arrivais pas à maîtriser l'art. Je m'efforçais d'imaginer une enfance passée face à un tel mépris quand une pensée me vint. Je croyais que votre père avait fonction de maître veneur du seigneur bien assis. Vous n'avez donc pas grandi dans son fief ? Je souhaitais apprendre où se trouvait ce village, où les vifiers vivaient en si grand nombre que leurs enfants jugeaient anormaux ceux qui n'avaient pas le vif. Ah, ça se passait plus tard, voyez-vous. J'ignorais si cette réponse seule était un mensonge ou bien si toute sa description de son enfance était fausse. Mais j'étais sûr qu'il y avait quelque chose d'inexact, et un silence gêné s'instaura entre nous. Je passais en revue toutes les possibilités. Elle avait le vif, ou bien elle était née dépourvue de cette magie dans une fratrie ou de parents qui la possédaient, ou encore elle avait inventé son histoire de toute pièce, ou dernière solution, le château de Sire Bien-Assis grouillait de domestiques vifiés. Peut-être le seigneur Bien-Assis lui-même appartenait-il au lignage. Ces spéculations n'étaient pas complètement futiles. Elle préparait mon esprit à classer, parmi les différentes éventualités, les informations que Laurier pourrait me fournir par la suite. Je me remémorai un échange que nous avions eu plus tôt et relevai une phrase fortuite qui me donna la chair de poule. Elle avait affirmé bien connaître les collines de Myrteville, car elle avait vécu dans sa famille maternelle, non loin de la bourgade. Imbre lui-même me l'avait mentionné. Je tâchais de renouer la conversation. À vous entendre, on dirait que vous ne partagez pas le sentiment actuellement répandu de haine contre les Viviers, que vous ne souhaitez pas les voir tous démembrés et brûlés. « Cette magie est ignoble, » rétorqua-t-elle, et son ton disait clairement qu'à ses yeux, le feu et l'acier ne constituaient pas un remède suffisant. « Je pense que les parents qui laissent leurs enfants s'y livrer méritent le fouet. Ceux qui choisissent de s'y adonner ne devraient pas avoir le droit de se marier, ni de concevoir. Ils partagent déjà leur vie et leur foyer avec une bête. Pourquoi tromper une femme ou un homme en se mariant ? On devrait obliger ceux qui ont le vif à décider très tôt s'ils vont lier leur existence à un animal ou à un humain. Un point, c'est tout. » Dans la véhémence de sa réponse, elle avait progressivement haussé la voix, mais elle l'avait baissée brusquement sur la fin, comme si elle s'était rappelée que Sire Doré dormait. « Bonne nuit, Tom, » ajouta-t-elle après un silence. Si elle avait essayé de prendre un ton moins âpre, ce dont je n'étais pas sûr, il restait clair néanmoins que la discussion était close, ce qu'elle souligna en roulant sur le flanc, dos à moi. Avec un gémissement, Œil de Nuit se leva, s'approcha d'une démarche raide et se recoucha près de moi en poussant un soupir. Je posai la main sur sa fourrure et le flot de nos pensées partagées s'écoula entre nous, sans plus de bruit que le sang dans nos veines. « Elle sait !»« Tu penses donc qu'elle a le vif ?» demandai-je. « Non, elle sait que tu l'as, et je ne crois pas que ça lui plaise beaucoup. » Je réfléchis un moment à cette déclaration. « Pourtant, elle t'a donné à manger ?»« Oh, moi, j'ai l'impression qu'elle m'aime bien. C'est de toi qu'elle se méfie. » Dors. Vas-tu tenter de les artiser ce soir ? Je n'en avais nulle envie. Si j'y parvenais, ma migraine serait terrible et la simple idée de cette souffrance me mettait le cœur au bord des lèvres. Pourtant, si je réussissais à entrer en contact avec le prince, je glanerais peut-être des renseignements qui pourraient nous aider à le rattraper plus vite. Il faut que j'essaie. Je perçus sa résignation. « Eh bien, vas-y, je ne te quitte pas. » Œil de Nuit, quand j'artise et qu'après, ressens-tu ma douleur ? « Pas exactement. J'ai du mal à me maintenir à l'écart, mais j'y arrive. Cependant, ça me fait l'effet d'une lâcheté. Cela n'a rien de lâche. À quoi bon souffrir tous les deux ? » Il ne répondit pas, mais je sentis qu'il avait son idée sur le sujet. Il y avait un aspect de ma question qu'il trouvait presque amusant. Je ramenai ma main sur ma poitrine, puis je fermai les yeux, me concentrai et cherchais à entrer dans la transe de l'art. La peur de la souffrance ne cessait de brouiller mes pensées et d'ébranler le calme intérieur que je m'évertuais à instaurer. Je finis par atteindre un point d'équilibre sur lequel je me fixais, quelque part entre le rêve et la réalité, puis je tendis mon art dans la nuit. Ce soir-là, j'éprouvais, comme cela ne m'était plus arrivé depuis des années, la pure douceur de l'immersion dans l'art. Je m'ouvris et j'eus l'impression qu'une main se tendait pour serrer les miennes en signe de bienvenue. C'était un contact simple et chaleureux, aussi réconfortant que le retour chez soi après un long voyage. Je sentis le lien de l'art se développer et toucher quelqu'un qui somnolait au creux d'un lit moelleux, dans une soupente protégée par l'avancée d'un toit de chaume. Je baignais dans des odeurs familières d'une maison, le fumet tenace d'un bon pot-au-feu qui avait mijoté tout l'après-midi et le parfum de miel d'une bougie en cire d'abeille qui brûlait au cœur de la nuit, quelque part au rez-de-chaussée. J'entendais un homme et une femme parler à voix basse comme s'ils voulaient éviter de troubler mon repos. Je ne distinguais pas ce qu'ils disaient, mais je savais que j'étais chez moi et que je ne risquais rien. Comme le lien d'art se dissolvait, je sombrais dans le sommeil le plus profond et le plus paisible que j'eusse connu depuis de longues années.